Bienvenue pour cette émission, ravi de vous retrouver cette semaine pour évoquer la figure d'une grande femme de l'époque moderne, Christine de Suède, reine de Suède à l'âge de 6 ans, qui abdique à l'âge de 24 ans, qui passe du protestantisme au catholicisme, qui est reçue en grande pompe par le pape, qui tente de se créer un royaume à Naples, Christine de Suède, qui est également la mécène des philosophes, des artistes, des scientifiques, une vie d'une très grande richesse qui a profondément marqué ses contemporains et dont la postérité est aussi importante. Pour évoquer la figure de Christine de Suède, je reçois cette semaine Anna Moretti. Anna Moretti est docteur en sciences de l'art, agrégée d'anglais, et auteur de plusieurs biographies, notamment une biographie consacrée à Catherine II, une autre femme remarquable, et à Christine de Suède, biographie qui vient de paraître aux éditions Ellipse. Alors Christine de Suède succède à son père qui décède au cours d'une bataille. Dans quelles circonstances se retrouve-t-elle à la tête du royaume de Suède?
Oui, merci pour cette question parce que en effet la question de son éducation est très importante. Mais je vais commencer, je pense, par répondre à votre deuxième partie de votre première question. Dans quelles circonstances se retrouve-t-elle qu'est-ce que la Suède en 1632? Donc à 6 ans, comme vous l'avez dit, Christine de Suède hérite d'un tout petit pays d'un million d'habitants. Il faut dire que France, par exemple, à l'époque, compte 20 millions d'habitants, celui 13. Donc la Suède est un pays scandinave, froid, sur la Baltique, dont l'ennemi principal est le Danemark. Et le conflit habituel qui déchire les deux pays, c'est le détroit de Sund, le contrôle des détroits, rapporte les taxes, etc. Donc c'est un pays peu peuplé, luthérien, et le père de Christine, Gustave Adolphe, a voulu faire de son pays une grande puissance malgré sa faiblesse démographique et financière. Donc la France et la Suède ont des intérêts communs parce que la Suède, pour la France, représente une alliance de revers contre les Habsbourg. Et il faut savoir que l'empereur du Saint-Empire germanique, le deuxième personnage après le pape, c'est un empire très catholique. Richelieu a une politique en revanche, qui est la lutte contre les protestants, d'où le siège, le fameux siège de La Rochelle en 1628, avec 10 000 morts pour 15 000 habitants. Mais en 1631, Richelieu, catholique, et Gustave Adolphe, le père de Christine, inaugurent la plus vieille alliance militaire que la France n'ait eue jusqu'à la Révolution. Donc la France a de l'argent. Mais la Suède n'en a pas. En revanche, la Suède a le fer, le cuivre, et la France a la politique des subsides. Elle va envoyer l'argent à Stockholm, et la Suède, à partir de ses ports, va envoyer le cuivre, le fer et tout ce qu'on appelle les munitions navales, c'est-à-dire le chanvre, les pains pour les mâts, le goudron qui vient des résineux des forêts de Suède pour les coques des vaisseaux français. Et depuis 1626, Richelieu est le chef de la marine française, et c'est lui qui va créer la première marine française de l'histoire, d'ailleurs, en partie grâce à Suède. Donc, la Suède, recevant de l'argent et ayant des meilleurs canons d'Europe, arrive à gagner les batailles contre l'empire des Habsbourg, qui est aussi l'ennemi de Louis XIII. L'alliance avec la France est donc compréhensible. Et ça explique que la Suède apparaît pour la première fois sur l'échiquier géopolitique, parce qu'avant Gustave Adolphe, on ne connaît pas véritablement la Suède. Donc, Christine est l'héritière d'un pays qui devient une puissance militaire. Pour elle, évidemment, c'est un bien, c'est la gloire de son pays, c'est la richesse de son pays, mais il y a aussi des désavantages dans cette situation. C'est une femme, une jeune femme, et une femme ne peut pas conduire l'armée. Et c'est pour cela que toute sa jeunesse, elle va souffrir de ne pas être chef de guerre, parce qu'elle va se comparer, et on va la comparer forcément à son père, qui est un grand guerrier, qui est le Lion du Nord, on l'appelle le Lion du Nord. Et elle ne peut pas être à la tête d'une armée. Il veut ressembler, et on l'a fait d'ailleurs ressembler à Élisabeth Ier de Tudor, Et d'ailleurs, l'un des premiers portraits de Christine est une copie de celui d'Elisabeth dit à l'Armada, très connu, qui a été fait en 1588, après la puissante défaite essuyée par l'Espagne qui tenta d'envahir l'Angleterre grâce à une flotte de 130 navires. Mais Elisabeth Ier Tudor, qui crée la Royal Navy, comme ensuite Christine va essayer de développer aussi la flotte de la Suède, Elisabeth crée donc la flotte, mais on ne l'a jamais vue sur un bateau parce qu'une femme à bord porte malheur. Donc, le pays qui est en train de devenir une grande puissance, c'est une sorte de malédiction aussi pour Christine, qui, encore une fois, souffre de l'image de son père guerrier. Mais en même temps, ce qui est très intéressant aussi, cette petite fille souffre de ne pas être chef de guerre, mais elle œuvre aussi, d'autre part, pour la paix dans le monde. Et c'est son côté humaniste, c'est justement son éducation. Gustave Adolphe voulait donner à Christine une éducation qu'il appelle virile. Il est vrai que Christine l'écrit elle-même dans ses mémoires, par exemple, elle a dit, voilà, j'ai reçu une éducation virile, mais je pense que son éducation n'était pas virile, son éducation était telle, conçue pour n'importe quel souverain à cette époque-là. Donc, elle lit beaucoup, elle est très instruite, elle étudie des sciences, c'est une femme absolument érudite qui passe des heures et des heures dans son bureau pour étudier, pour travailler avec ses professeurs. C'est une femme qui va faire venir Descartes en Suède. Donc c'est une femme absolument brillante. Et je pense que grâce à ses lectures, grâce à ses connaissances de plusieurs langues, elle parle le grec, elle parle le latin, elle parle l'hébreu, c'est son côté humaniste qui ressort. Et c'est justement pendant son règne que la paix de Westphalie sera signée, qui met fin à la guerre de 30 ans en 1648. Et c'est justement à cette époque, au sommet de sa gloire, que Christine commence à songer à abdiquer.
Quelle est l'origine de son abdication? Est-ce que c'est dû à sa conversion au catholicisme ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Bon, les historiens se posent des questions sur son abdication. Est-ce que c'est l'incapacité de conduire physiquement la guerre, comme je l'ai dit avant? Est-ce que c'est un acte de conviction spirituelle? Est-ce que c'est un acte irresponsable d'une jeune reine inconséquente, comme plusieurs historiens protestants, y compris bon, beaucoup d'historiens suédois, vont dire? Est-ce que c'est le refus du mariage et d'un mari? Ce liste est très longue, mais l'une des raisons pour cette conversion, c'est peut-être justement son côté humaniste, parce que elle ne veut pas être une reine. Elle abdique, elle se convertit parce qu'elle pense, elle croit qu'elle a une mission beaucoup plus noble et beaucoup plus importante que celle de régner sur son pays. Elle pense à l'unification de l'Europe chrétienne contre le monde musulman et notamment contre l'Empire ottoman, qui d'ailleurs fut longtemps l'un des objectifs de plusieurs penseurs en Espagne, dans l'Empire à Gênes, à Rome, à Venise, etc. Mais les protestants se réunissent autour de réformateurs et les catholiques autour du pape. Donc c'est très difficile d'œuvrer à l'unification des pays chrétiens à cause d'intérêts opposés qui engendrent des conflits incessants entre la France et l'Espagne, par exemple. Et Christine se voyait sûrement en médiatrice entre Paris et Madrid, entre tous ces pays se déchirant pendant les guerres de religion. Et la suite le prouvera parce qu'elle se proposera en 1663 pour aider le Saint-Empire germanique attaqué par les Turcs, par exemple. Et donc devenir cette figure messianique qui ramènerait à la raison les nations européennes, s'imposer comme une figure de paix et de tolérance religieuse. Cela semble avoir séduit cette femme qu'on appelle d'ailleurs Minerve du Nord, apôtre du vivre ensemble, du moins entre chrétiens, en remplaçant les antagonismes religieux par sa troisième religion, puisque il faut savoir que Christine se revendique de la troisième religion, elle le dit elle-même, c'est-à-dire la philosophie. Et donc son abdication, puis sa conversion pourrait par conséquent être interprétée comme une démarche unificatrice, mais il y a, comme d'habitude, un mais. Moi, personnellement, je pense que la cause la plus probable de son abdication est son projet napolitain. le royaume de Naples, parce que la France veut supplanter l'Espagne, et Christine aurait négocié avec Mazarin le royaume de Naples, avec peut-être une promesse de léguer Naples à la France à sa mort, comme le fera en 1766 Stanislas pour la Lorraine. Donc, justement, pourquoi Naples, pourquoi laisser son pays natal, la Suède, pour vivre à Naples? Tout simplement parce que Naples est la plus grande ville de l'Europe chrétienne, avec 400 000 habitants à l'époque, comparé aux 35 000 de Stockholm, parce que le royaume de Naples, c'est évidemment un rayonnement culturel exceptionnel pour celles qui parlent le latin, ses contemporains qui le disent, comme sa langue maternelle. C'est son climat, c'est son soleil, mais c'est aussi la. Voilà, mais c'est évidemment la culture, puisqu'il veut être en Italie, il veut être près de Rome, il veut être dans le berceau de la culture chrétienne, de la culture antique. Et c'est son choix, donc le royaume de Naples. Et justement, la conversion, si vous voulez, la vie de Christine est faite de contradictions. Femme, ni mari ni enfant, reine, elle abdique, luthérienne, elle se convertit, protestante, elle meurt à Rome. Mais si on regarde la vie de Christine comme un puzzle, je pense que la pièce maîtresse de ce puzzle serait justement son désir de régner à Naples. Parce que dans ce cas, on peut très bien expliquer aussi sa conversion. Parce que d'une part, il y a beaucoup d'historiens et Christine elle-même dit que la conversion c'était un acte de conviction et on voudrait bien la croire, même si ailleurs elle va dire que elle se revendique de la troisième religion de la philosophie. Mais il est vrai que Christine dit que elle fait le calcul, elle fait le calcul, elle le dit dans ses mémoires. Les catholiques ont donné des centaines de saints. Il y a 16 siècles des catholiques, il y a beaucoup de génies parmi les catholiques, et ils ne se peuvent pas s'être trompés alors que les protestants n'existent que depuis son arrière-grand-père. Ça fait 100 ans que le protestantisme existe, quand Christine règne en Suède. Elle le dit peut-être aussi que le protestantisme ne reconnaît pas la virginité de Marie, d'où la création par Christine d'un curieux ordre de l'Amarante dont la filiation nécessite la seule chose, le célibat. Mais en même temps, si on croit à cette envie de Christine de devenir la reine de Naples, le puzzle se met, toutes ces pièces se mettent en place parce que, évidemment, pour régner sur Naples, ultra-catholique, une protestante ne serait pas acceptée. Henri IV, comme vous le savez, s'est converti 6 fois et a dit que Paris vaut bien une messe. Donc je pense que pour Christine, c'est peut-être aussi une des raisons, même si ce côté unificatrice, ce côté de Christine en tant que médiatrice entre toutes les nations chrétiennes, ça ressort aussi quelque chose de façon assez importante. Et c'est une femme, comme vous l'avez dit, est absolument étonnante. En plein XVIIe siècle, Christine défend les minorités catholiques aux Pays-Bas. Elle défend les Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes en France. Elle défend la communauté juive à Rome. Elle filleule du pape, qui lui donne d'ailleurs son deuxième prénom, Alexandra. Et Christine prend la tolérance religieuse. Elle écrit Chacun a droit au libre exercice de sa religion, quelle qu'elle soit. Donc en fait, c'est une femme absolument moderne dans le sens actuel de ce mot. Mais qui a des intérêts aussi politiques, puisque si elle abandonne son trône, c'est pour avoir une autre mission et un autre rôle. Il ne le fait pas non plus gratuitement et de façon irresponsable ou inconséquente, comme le diront ensuite les historiens suédois.
Anna Moretti, quelles sont également la nature des relations entre Christine de Suède et le roi de France? Vous avez évoqué le royaume de Naples. Il y a eu une tentative aussi du roi de France de le placer à la tête du royaume de Naples.
Voilà, c'est justement c'est ça qui est très intéressant puisque par exemple il y a aussi un épisode dans l'histoire de Christine qui pose beaucoup de questions et d'où vient la légende noire de Christine, c'est l'assassinat de Monaldesque. L'assassinat de Monaldesque, le plus grand scandale chez Christine. Mais en fait, ça aussi, à mon avis, c'est lié au royaume de Naples et au désir de Louis XIV, placer, plus Mazarin que Louis XIV d'ailleurs à cette époque, a placé Christine à la tête du royaume de Naples. Quelle était la raison? Tout simplement, Christine, elle le voulait, mais en plus, Christine laissait sur le trône son cousin germain, Charles Gustave, qui était déjà allié de la France. Donc ça, c'était sûr, Mazarin était sûr que la Suède resterait l'allié de la France. Et il était évidemment, c'était intéressant pour Mazarin d'avoir quelqu'un, d'avoir un allié qui pouvait peut-être passer, comme je vous l'ai dit au début, léguer Naples à la France à sa mort, comme Christine, et d'autre part avoir l'allié, voilà, comme Charles Gustave. Et Christine part. Elle fait deux voyages en France. Elle fait un voyage en 1656 et ensuite un deuxième voyage en 1657, lors duquel justement se passe cet événement, l'assassinat de Monaldesque, que j'appellerais d'ailleurs plutôt une exécution et pas un assassinat, parce que c'était très bien décrit par le père Lebel, le confesseur de Monaldesque, et le religieux qui ne parle pas du contenu du procès, parce qu'il y a même un petit procès organisé par Christine. Il n'en parle pas, puisque c'est le secret de la confession, puisque c'est peut-être un secret d'État. Mais il utilise le terme exact du religieux, c'est mise à mort. Il se garde bien de parler d'assassinat, acte formellement interdit, tout comme le meurtre, mais il ne parle pas non plus d'exécution, acte qui est alors quasi légal. Lorsqu'un souverain trahit, fait exécuter un sujet révolté, et d'où la polémique qui va naître. Donc, Monaldesque exécuté, on prétend que les lettres remises par Lebel à Christine contenaient des propos injurieux sur la souveraine. On dit que des lettres que Monaldesque écrivait pour nuire à Francesco Sentinelle, qui était son rival dans le cœur, mais aussi dans le lit de la reine. On prétend que c'est son frère Ludovico, prétendu incestueux, qui aurait massacré Monaldesque, etc., etc. Et une pareille mort infligée après confession pour une infidélité supposée est quasi invraisemblable. Seule la haute trahison peut être retenue. Mais justement, d'où vient cette légende? Pourquoi on ternit l'image de Christine avec cette exécution de Monaldesque. Mais parce que, en novembre 1657, c'est le mois du meurtre et l'année du meurtre de Monaldesque, la France est toujours en guerre contre l'Espagne. Sauf, il y a une lueur d'espoir pour en finir. Et Mazarin mène les négociations pour marier Louis XIV avec Marie-Thérèse espagnole. Donc la France n'a aucun intérêt à agacer Madrid. Et les ambitieux projets de Christine sur le royaume de Naples, conduits avec la complicité de Mazarin, ne pouvaient être ébruités dans les hautes sphères des circuits diplomatiques. Et seule une prétendue galanterie pouvait officiellement disculper le cardinal de toute implication dans les affaires de Naples. Donc Mazarin avait tout intérêt à laisser se répandre la légende noir de Christine, dont Voltaire et Dumas feront d'ailleurs la version officielle. Et c'est ce meurtre qui met fin à la relation officielle entre Christine et Louis XIV, puisque après l'assassinat de Monaldesque, ou l'exécution plutôt de Monaldesque, Anne d'Autriche dit à son fils, le Louvre, c'est soit moi, soit Christine. Donc Christine ne pourra jamais aller plus loin que Fontainebleau. Lors de son deuxième voyage, puisque au premier voyage, elle a été très bien reçue par la cour, par Louis XIV, par Anne d'Autriche. Elle a traversé la France entre Marseille et Paris. Et elle a été reçue vraiment comme une femme extraordinaire, brillante. Elle a laissé beaucoup de souvenirs assez positifs. Et c'est cette exécution qui va complètement changer la donne. Donc, Christine devient la personne non grata en France. Et même si elle continue à avoir une correspondance avec Louis XIV, il ne pourra plus jamais venir en France. Pour elle, c'était terminé.
Alors Christine de Suède, c'est aussi les liens qu'elle entretient avec les philosophes, avec les artistes de son temps, notamment le Bernin. En quoi son rôle de mécénat a-t-il été important?
Christine adore l'art, donc elle est passionnée par l'art. Il fait beaucoup de mécénat, donc les artistes, les poètes, les scientifiques, c'est très important aussi, puisqu'elle fait beaucoup pour promouvoir les sciences aussi, pas seulement les arts, mais les sciences. D'ailleurs, à l'époque, les arts et les sciences sont souvent liés. C'est une femme qui était passionnée par l'astronomie et l'astrologie, parce que c'est lié aussi à l'époque. C'est une femme qui fait venir, qui a une correspondance avec Gassendi, l'un des meilleurs philosophes et astronomes à l'époque en France. Elle fait venir Descartes en Suède, et Descartes d'ailleurs meurt en Suède, puisqu'il est reçu dans un château froid à 5 heures du matin. Il n'a pas du tout l'habitude à ces conditions-là, mais Christine étudie à partir de 5 heures, et elle dit à Descartes qu'il se plaigne qu'elle réserve les meilleures heures de la journée où son esprit est très... qui peut recevoir le mieux toute l'information qu'il lui donne. Et son mécénat, donc, elle achète beaucoup de tableaux. Je pense qu'elle a peut-être une plus grande collection privée à l'époque, puisque elle n'est plus reine. D'ailleurs, elle amène avec elle, bon, ça lui a été beaucoup reproché aussi. Elle part avec sa collection de tableaux, etc., pour s'installer à Rome, en Italie, ensuite quand elle quitte Suède. Et donc le mécénat, oui, le mécénat fait une grande partie, une partie de sa vie.
Alors aujourd'hui, quel est l'héritage laissé par Christine, notamment en Suède? Est-ce que dans son pays, c'est quelqu'un qui dont on parle ou non?
Oui, aujourd'hui, oui. Je pense qu'on a changé quand même, enfin, la réputation. Il y a deux légendes chez Christine, comme chez la plupart des grands personnages, les légendes noires et la légende dorée. Bon, évidemment, quand Christine quitte la Suède, quand elle change de la religion, quand elle se convertit au catholicisme, elle devient tout de suite un personnage absolument noir, une femme indigne de son pays, etc. Mais aujourd'hui, on commence, d'ailleurs depuis très peu de temps, on commence à réhabiliter l'image de Christine, aussi bien dans la littérature que dans l'historiographie. Et en Suède, évidemment, elle est vue comme une femme qui dénote, comme une femme extraordinaire, comme une femme qui a été, bon, Madame de Sévigné a dit sur elle que c'est un esprit éclairé, bien avant l'époque des Lumières. Donc cette légende noire, parce qu'elle a trahi son peuple, sa religion, son pays, est transformée en une légende sur une femme moderne, sur une femme libre, qui a osé couper les ponts avec son pays parce qu'elle voulait s'assumer en tant que femme libre, sans mari, sans couronne. Elle renonce à tout pour vivre de ses passions, l'art et les sciences. Elle préfigure aujourd'hui en Suède également, pas seulement le siècle des Lumières, mais déjà une femme contemporaine. Donc ça change, oui. On la voit différemment aujourd'hui.
Merci beaucoup, Anna Moretti, de nous avoir présenté Christine de Suède. Je vous rappelle la biographie que vous lui avez consacrée aux éditions Ellipse et puis sur une autre reine d'exception, une biographie que vous avez consacrée à Catherine II, toujours chez Ellipse également. Nos auditeurs peuvent s'y reporter. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais cette émission, je l'espère, aura permis de vous donner un bref résumé, une brève synthèse de la richesse de cette vie. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup à vous.
Ben merci, c'était.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.